Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et si on partait sur Europe 1, tous les jours, entre 16h et 18h, un grand voyage, juste pour s'évader, pour rêver. Pas de frontières, pas de barrières, rien. Chaque jour, deux destinations, en France et au bout du monde. C'est parti.
16h, 18h.
Et si on partait ? Philippe Googler.
Tout à l'heure, à 17h, je vous emmènerai dans un petit pays, un tout petit pays, mais qui est comme un concentré, un petit pays capable sur quelques centaines de kilomètres de passer en un clin d'œil des plages à la jungle, des villes surpeuplées aux montagnes fraîches et brumeuses, presque à l'ambiance écossaise. C'est un concentré d'émotions, c'est le Sri Lanka. Et puis tout de suite, en première heure, nous allons partir sur la terre des Guardians. La terre des flamants roses et des taureaux, de Sainte-Marie de la Mer, d'Arles, du Gros-du-Roi, d'Aigues-Mortes. Je sais que vous avez déjà compris où nous allons. Nous allons partir en Camargue.
Loin là-bas, le ciel rejoint la mer. La Camargue, c'est tout mon univers.
Voilà. La Camargue par Christophe. Je serai pour ce grand voyage accompagné de tous mes amis, ceux qu'on adore emmener en vacances avec soi, c'est les meilleurs. Il y aura Nathalie Elal, grande voyageuse, auteur. Bonjour Nathalie.
Bonjour à tous.
Il y aura également Olivier Pouls. Lui, c'est pour tout ce qui est cuisine. Toujours important d'avoir un cuistot avec soi.
Absolument. Bonjour. Vous avez oublié les moustiques concernant la Camargue.
Bah, je voulais en parler à la fin. C'est pas le premier truc qu'on raconte. Merci Olivier. Et Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Bonjour.
Bonjour Philippe.
Alors, on essaie de situer un petit peu. Bon, tout le monde voit à peu près sur la carte, c'est en bas.
Bah déjà, il faut savoir que c'est sur deux départements, on l'a pas dit, c'est le Gard et les Bouches-du-Rhône. Et c'est en fait, c'est la Camargue, c'est le delta du Rhône, ça a une forme d'un grand triangle qui fait à peu près allez, 40 km d'un bout à l'autre. Ouais. C'est au sud d'Arles, et d'un côté et de l'autre, il y aurait, si vous voulez, comme grande ville, Marseille à droite et Nîmes-Montpellier sur la gauche. Voilà pour situer.
Et c'est la nature, la nature, la nature.
La nature à l'état pur et à l'état brut.
Ouais, on va en parler tout à l'heure. Nathalie, vous avez toujours nous déniger des super infos et vous connaissez toutes les adresses des célébrités, j'ai remarqué ça depuis quelques jours.
Oui, on peut dire ça comme et ça, je suis le bottin mondain, à moi toute seule, bien sûr.
Et surtout, vous les révélez, ce qui n'est pas beau.
Oui, c'est pas mal. Alors c'est vrai qu'en Camargue, il y a aussi pas mal de monde. Hein. Ouais. Puissent les artistes se retrouver à Arles, disait-il. Alors ce « il », c'est Vincent Van Gogh, évidemment, qui a quitté Paris pour Arles en 1888 en quête de cette fameuse lumière du midi. Il est resté 15 mois, il a peint mais des centaines de toiles, de dessins, dont certaines toiles parmi les plus célèbres. Et puis un artiste d'un autre genre, on peut le dire, Nostradamus. Ah, oui, Michel de Notre-Dame, l'apothicaire, l'astrologue du 16e siècle, connu pour ses prophéties plus ou moins convaincantes, hein, selon certains.
Est-ce
Philippe.
Est-ce qu'il y en a une qui a marché au moins?
Oui, il y en a au moins une. La mort du roi Henri II, mari de Catherine de Médicis, alors il a été grièvement blessé pendant une joute, c'est-à-dire qu'un fragment de lance a transpercé son œil, c'est horrible. Il est mort 10 jours plus tard dans les souffrances les plus abominables. Et Nostradamus l'avait évidemment prédit.
Et ça, c'est la dernière prédiction que.
Non, oh là là.
Non, parce que sinon, on ne devrait déjà plus être là.
Mais oui, c'est ça.
Je crois qu'on avait tous mourir.
Il n'y a pas très
longtemps.
Oui,
même tout ce qui nous est arrivé les derniers mois, c'est Nostradamus. Il l'avait vu aussi, soi-disant. Donc, on peut y aller. Oui, puis il faut savoir quand même, il y a une chose assez drôle sur Nostradamus. Il avait aussi publié des livres de cuisine. Enfin, un livre de cuisine, le traité des confitures et des fardements, c'est-à-dire des cosmétiques avec plein de recettes. Ça peut intéresser notamment Olivier. Et puis, j'ai une autre célébrité locale. Alors ça, c'est un peu improbable. C'est Jeanne Calment. Vous savez, la super centenaire française qui est née à Arles, morte également à Arles, à l'âge de 122 ans.
Ça se discute, ça aussi.
5 mois et 14 jours. Elle avait d'abord été élue doyenne des Français. Oui, ça se discute. Vous avez raison, Olivier. Toute une polémique.
Oui.
En tout cas, élue doyenne des Français, doyenne de l'humanité ensuite. Alors, une anecdote à propos de Jeanne Calment. C'est un petit peu, elle a un petit peu rejoué à sa sauce. Vous savez, le célèbre film Le Viager avec Serrault et Galabru. C'est-à-dire qu'elle a réussi à enterrer son acheteur, un notaire qui est mort à 77 ans et qui, au final, avec son épouse, aura payé 2 fois le prix de la part de Jeanne. Je trouve ça génial.
Ah, c'est incroyable, incroyable cette histoire.
Et puis, plus près de nous, bien sûr, il y a aussi le célèbre couturier Christian Lacroix qui est né à Arles. Son style inimitable de broderie, enfin bon, on adore.
Olivier,
à table.
Oui, à table. Déjà vous êtes belge, donc tout ce qui est flamand, vous connaissez, vous savez comment les cuisiner.
Oui, mais alors, pour la Camargue, croyez-moi, il y a de quoi se mettre à table. Et ouais. On peut commencer dès maintenant à préparer le repas si on veut être à l'heure. Parce que je vous propose du taureau, on va parler de ce fameux taureau de Camargue et de plats traditionnels qui l'accompagnent. On ne le sait pas forcément, mais la Camargue est un grand territoire producteur de riz. Pas besoin d'aller en Asie, au Sri Lanka pour manger du riz. On peut en manger en Camargue. Je vous raconterai tout ça tout à l'heure.
Oui, il faudra nous raconter parce que c'est étrange.
C'est étrange, mais il y a une raison à cela et vous saurez tout. Oui. Et puis alors, quelques plats de soupe de poisson, par exemple, grande spécialité d'Arles. Et puis on pourrait parler de la fougasse d'aigues mortes. Pour ne citer que ces plats-là, on est vraiment dans la cuisine du sud de la France, elle qui nous régale. Et en cette saison, croyez-moi, il y a de quoi faire.
Beau programme les amis. Tout à l'heure à partir de 17h, je vous emmènerai découvrir une île lointaine. Entre plages et montagnes, rizières et plantations de thé, une île de la route des épices qu'on appelait autrefois Ceylan et qu'on appelle aujourd'hui le Sri Lanka. Mais dans un instant, donc, nous partons pour le pays des taureaux, des chevaux blancs et des flamants roses. Dans un instant, nous serons avec un Camarguais, Chico, du groupe Chico et les Gypsies, et puis aussi le Chico d'il y a quelques années, des Gypsy Kings. A tout de suite sur Europe 1.
16h, 18h, et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Grand départ pour le Sri Lanka tout à l'heure à partir de 17h, mais tout de suite la Camargue, une terre, vous le disiez Nathalie, qui a inspiré de nombreux artistes. Van Gogh, je crois qu'il a peint plus de 180 toiles là-bas, hein, c'est ce que vous nous disiez, en à peine un an. C'est dire si la lumière de ce lieu inspire. Et puis en Camargue, il y a un homme qui lui est toujours autant subjugué également par ses paysages, un homme dont vous avez déjà tous chanté, j'en suis sûr, ces hymnes planétaires, comme par exemple ceci.
Amor de mis amores, reina mía, que me existen, que no puedo conformarme sin poderme contemplar.
Et ça, on y est tout de suite là. Alors,
ah,
ça,
oui,
ça marche au quart de seconde là. Et je suis.
Non, mais descendez de la table, arrêtez de danser.
On en a un autre. Allez hop.
Jovi, Jova, cada día yo te quiero más. Jovi, 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 Jova.
C'est bon, je suis ravi d'accueillir en direct depuis la Camargue Chico, le leader du groupe Chico and the Gypsies camarguais. Bonjour, bonjour Chico.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour. Je suis ravi d'être avec vous.
Alors on rajoute votre accent en plus, là on ne peut pas faire mieux. Vous êtes un amoureux fou de votre région, faites-nous rêver, décrivez-nous les paysages qu'il y a autour de vous en Camargue.
Écoutez, moi je suis né en Arles et j'adore la Camargue. Je me suis promené toute ma vie quand je faisais pas le tour du monde. Et vous avez cité Van Gogh et je comprends pourquoi il a peint tous ces tableaux, parce que il y a une luminosité, il y a des décors et qui changent justement en fonction de ces couchers de soleil. C'est extraordinaire. Et plus vous vous avancez dans la Camargue et plus vous voyez les amoureux, ceux qui y vivent et ceux qui y travaillent, les Camarguais qui sont des personnages extraordinaires et qui font tout pour préserver cette faune et cette flore. C'est vraiment une région, vous avez dit, c'est le sud des suds, mais c'est vraiment le sud des cœurs.
Et il y a une faune également absolument incroyable. Les flamants roses de Camargue, ce n'est pas une légende. Hein.
Mais vous savez, il y a plusieurs centaines d'oiseaux qui existent. Et les flamants roses, c'est évidemment les plus réputés, les plus gros, ils font partie des plus beaux. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de... La faune et la flore font partie intégrante de cette Camargue. Il y a une préservation très, très forte pour justement mettre tout ça en valeur et puis et surtout protéger. Protéger, c'est vraiment, une région... Quand on y va une fois, on rêve que d'y revenir.
Alors, c'est vrai que c'est un monde à part, vraiment adorable. Votre papa est marocain, si mes informations sont bonnes. Votre maman est algérienne, mais vous êtes né, vous avez grandi en Arles. Et c'est en Arles, pour vous, que tout a démarré côté musique.
Ah, complètement. C'est complètement, ça a démarré en Arles avec la famille Reyes. On était très jeunes, on avait 14 ans. On sortait de l'école, on se retrouvait.
La famille Reyes, c'est une famille de gitans qui était là-bas, hein.
Voilà, et puis dont le papa était le chanteur de José Reyes était le chanteur de Manitas de Plata.
Absolument.
Donc moi j'ai connu les enfants, puis un jour je suis rentré chez eux et j'ai vu cet univers d'artistes qui n'étaient pas encore connus, mais tous chantaient, jouaient, il y avait une atmosphère qu'on retrouvait nulle part ailleurs. Et moi je me suis senti tellement bien que J'ai adopté, ils m'ont adopté, et puis de là, nous avons vécu une aventure, un destin incroyable.
Pourquoi dit-on en Arles et pas à Arles ? J'ai jamais compris ça. On dit en Avignon et pas à Avignon.
C'est la liaison,
en fait,
peut-être.
C'est vrai que chacun dit un peu comme il veut, mais l'important, c'est d'y venir. Et quand on parle de cette Camargue, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir qu'il y a Arles et la porte de la Camargue. Et à partir d'Arles, c'est à partir de là que vous trouvez des chemins qui vous emmènent en Camargue, dans des lieux mais improbables. Et tout ça, c'est en France. On a l'impression que quand on est en Camargue, on est sur une autre planète, mais c'est un des bijoux de la France.
Ouais. Et alors, il y a les fêtes camarguaises qui sont extrêmement célèbres. Il y a la fête, par exemple, des gardiens, qui est le 1er mai.
Oui, alors ça, c'est un grand rassemblement de tous les gardiens qui viennent habillés avec leurs costumes et surtout accompagnés d'Arlésiennes. Vous savez, ces Arlésiennes qui sont habillées avec les costumes d'Arlésiens. Vous avez parlé tout à l'heure de Christian Lacroix. Il faut savoir que Christian Lacroix s'est beaucoup inspiré, lui, l'Arlésien, de cette histoire oui. d'Arlésienne et surtout des costumes d'Arlésiens. Et encore aujourd'hui, ce sont des vêtements portés par ces belles femmes qui nous font rêver. Ça a été, elles ont fait ça à l'époque pour se démarquer un petit peu des autres femmes, mais c'est devenu le symbole de la Provence et de la Camargue.
C'est des robes assez longues.
C'est toute une histoire.
C'est des robes assez longues avec des beaux tissus, des broderies.
Elles sont très longues. Exactement, elles tombent très bas. Et puis il y a la coiffe avec le ruban aussi. C'est vraiment et les bijoux qui accompagnent et surtout ces belles broderies qui mettent en valeur cette féminité, cette femme.
Et on parlait de la fête des gardiens, c'est des milliers de gardiens à cheval, c'est un spectacle cette fête.
Voilà, ils viennent sur la place de la Major, ils se réunissent le 1er mai, place de la Major en Arles, et il y a un grand rassemblement, ils viennent de partout, et il faut savoir, ça c'est toutes les années, mais il faut savoir que tous les 3 ans, il y a l'élection de la reine d'Arles, et qui est vraiment aussi un moment très fort de la tradition et de la culture arlésienne.
Alors il y a un autre rendez-vous incontournable dans la région, dont moi j'entends parler depuis des années, mais je ne suis jamais allé, et tout le monde me dit que j'ai vraiment tort, c'est le pèlerinage des Gitans au Sainte-Marie-de-la-Mer. Il paraît que c'est extraordinaire.
Ah oui, c'est à voir au moins une fois dans sa vie. Le pèlerinage, ça existe depuis très longtemps. Vous savez, la légende dit que c'est Marie Jacobée et leur servante Sarah qui l'accompagnait. Elles ont
Sainte Sarah, qui est la patronne des Gitans, c'est ça ?
Qui est devenue la patronne des Gitans, qui sont venus se prosterner devant elle et surtout vivre des moments de recueillement, de spiritualité énorme. Et elle a échoué sur cette plage des Saintes, qui est devenue la plage des Saintes Marie de la Mer. Et toutes les années, le 24 mai, il y a le pèlerinage avec évidemment la descente des chasses dans l'église, l'accompagnement jusqu'à la mer avec tous les Gitans. Mais il faut voir le monde qu'il y a, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de touristes, mais surtout il y a les gardiens, il y a les Arlésiennes qui accompagnent. Et tout ce monde, en grande partie, rentre dans la mer pour la procession.
Ils rentrent dans la mer, c'est-à-dire
Ils accompagnent Sainte Sarah dans la mer. En fait, la vraie procession, la bénédiction se passe dans la mer chaque année. Et beaucoup de personnes, les chevaux... Il y a certaines personnes qui viennent aussi en barque de l'autre côté et se retrouvent dans un point précis de Sainte-Marie-de-la-Mer. Et à ce moment-là, ça fait partie de tout ce pèlerinage où il y a un moment de ferveur, mais incroyable.
Et ils descendent dans l'eau.
Tout ça accompagné évidemment par des chants, par des musiques. C'est très impressionnant.
Ouais. Bon, on va continuer à parler un petit peu de tout ça, et beaucoup même, de la Camargue, dans un instant, en compagnie de Chico, qui est donc avec nous, le leader du groupe Chico et les Gypsies, et il y a quelques années, des Gypsy Kings. Vous allez, Chico, nous livrer vos petits coins, vos balades préférées. À tout de suite, en direct, sur Europe 1.
Et si on partait ? Philippe Googler.
Et si on partait sur Europe 1, 2 heures de voyage tous les après-midi, sans contrainte. Après 17 heures, je vous emmènerai tranquillement au bout du monde, au Sri Lanka, un lieu où les croyances poussent à des choses absolument effarantes. Je vous raconterai comment des hommes se font suspendre par des crochets pour prouver leur foi. Alors ça fait un peu froid dans le dos, mais vous comprendrez que ça se fait et que ça visiblement, leur fait pas mal. Mais enfin, on verra ça tout à l'heure. Et puis, tout de suite, nous sommes en Camargue. Cet immense delta que nous aimons tant, un territoire protégé par un parc naturel régional qui s'étend sur plus de 100 000 hectares. Et nous sommes avec Chico en direct depuis la Camargue. Alors, on l'a compris, l'empreinte gitane est très forte en Camargue. Et vous avez même, vous, Chico, voulu créer un lieu typiquement gypsy, c'est ça ?
Exactement. J'ai eu la chance de racheter à Arles une friche industrielle et j'en ai fait un lieu de vie et de fête. Ça s'appelle le Patio de Camargue. Et ici, c'est devenu le temple de la musique gitane. C'est un endroit extraordinaire avec le décor, c'est des roulottes à l'ancienne. Il y a une guinguette au bord de l'eau. Il y a des salles de différentes capacités. C'est pour le public et pour le privé. Et une fois par mois, le groupe, nous mettons à l'affiche depuis des années. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on allait dans le monde entier faire cette fiesta, mais en Camargue, il n'y avait pas un lieu qui était dédié à cette musique, qui soit un peu professionnel, et en même temps qui montre un peu des aspects de cette culture. Et du coup, pour juillet et août, tous les samedis, nous donnons des concerts chez moi. Donc on s'est mis en résidence, le groupe Chico et les Gypsies, avec des invités. À la première qui a eu lieu samedi dernier, Patrick Sébastien est venu nous rendre visite et a fait la fête avec nous. Et ça se passe comme ça pendant 2 mois. Et on est très content d'avoir un lieu de partage et d'amour musical.
Alors, vous êtes le guide idéal pour découvrir la Camargue. Quels seraient les deux endroits que vous nous conseilleriez là tout de suite, venus du cœur ?
Les deux endroits, moi je dirais qu'il y a des balades extraordinaires. On peut partir sur les digues à partir de Arles, on peut aller en suivant le Rhône en direction de Port-Saint-Louis. Il y a des paysages et il y a une sérénité dans cet endroit qui fait rêver. Donc, bienvenue. Et puis, surtout, il y a aussi l'étang du Vacarès qui se trouve dans le milieu de la Camargue. Et là, c'est vraiment un tableau vivant avec des oiseaux, il y a des taureaux d'un côté, vous pouvez trouver des chevaux de l'autre côté. En fait, ce sont des décors qui bougent, mais c'est vraiment des tableaux vivants avec une luminosité qui change tous les jours.
Jean-Bernard, vous connaissez ce coin-là ?
Oui, je connais bien, mais on parlera d'autre chose. Dans ma chronique, on parlera de la réserve naturelle pour les oiseaux, Pont de Gau, qui est pas mal non plus.
Ouais. Exact.
Ouais, on verra pour les flamants roses.
Ouais. Alors, oui, allez-y, Chico.
Ouais. Oui, Pont de Gau, c'est vraiment une étape importante. C'est sur la route des Sainte-Marie-de-la-Mer. Et c'est un parc ornithologique qui est vraiment d'une richesse et d'une préservation de toute cette faune et flore qu'on peut visiter. Et c'est vraiment extraordinaire.
Alors, on parle souvent donc de la nature, on parle de Sainte-Marie-de-la-Mer, on parle des flamants roses, mais on parle moins d'Arles. Et Arles, c'est une ville très, très chouette, qui a quand même 2000 ans d'histoire, avec un théâtre antique, avec des arènes. Vous avez grandi là, vous alliez enfant dans les arènes ?
Dans les arènes, mais c'était ma cour de récréation. Moi, j'ai passé ma jeunesse dedans et puis on y allait. Le gardien nous faisait toujours partir en courant, mais on y revenait parce qu'on était attiré par ce lieu qui est majestueux. Moi, je suis un amoureux des pierres. Mais le plus beau, c'est que il y a 3-4 ans, par exemple, on a donné un concert dans les arènes d'Arles et on a eu 7500 personnes qui sont venues nous applaudir.
Pas mal.
Vous imaginez pour l'impression que ça nous a fait, et surtout pour moi, le petit garçon qui se faisait jeter par le gardien à l'époque, de retrouver ce public qui, où on partageait un moment de bonheur extraordinaire. Et le théâtre antique, il y a les Aliscans, il y a vraiment il y a une histoire qui date d'à peu près 2000 ans. Mais surtout, ce qui est important, c'est que cette histoire, elle se reconstruit encore aujourd'hui avec un musée d'art contemporain qui s'appelle Luma, qui est en train de finir. L'année prochaine, il va y avoir l'ouverture. C'est Maya Hoffman qui est à l'origine de cette idée, de cette création et de ce mécénat. Et vraiment, ce que j'adore, c'est justement ces deux époques qui sont tellement improbables, qui montrent la richesse et puis surtout l'inspiration de créer des lieux qui vont rester figés ici.
Jean-Bernard, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Ce que dit Chico, c'est fabuleux parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a un réel dynamisme en Arles. Il y a quelque chose qui se passe dans la ville. Il y a le Luma qui va ouvrir, mais il y a une énergie folle depuis quelques années. Ça devient même une ville branchée. Est-ce que vous le confirmez, ça, Chico ?
Complètement, oui. Elle s'est transformée depuis quelques années. Et puis, moi, je trouve ça naturel. Ça veut dire que quand on vient en Arles, il y a quelque chose. C'est peut-être ces pierres qui nous font ressortir cet amour qu'on a envie d'y rester. Et ceux qui viennent en vacances, ils reviennent, ils ouvrent des galeries. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se passe de très fort.
Et moi,
au niveau artistique, c'est vraiment fort.
Il est intéressable. Ce que j'adore, Chico, c'est votre énergie pour parler de votre région. Ça, on ne peut pas vous dire.
Il n'y a pas de doute, il l'aime.
Oui, je crois bien qu'il l'aime.
Mais, Ouais. Mais c'est ça, c'est, en fait, c'est mes coups de, en fait, mon coup de cœur, il est général. Et je veux le faire aimer, je veux le faire partager. Et surtout, la chance que j'ai, c'est que tous les jours, je réalise ce bonheur. On est vraiment privilégié. C'est ça, il faut le réaliser.
Eh ben, ça donne envie, Chico. Rien que pour ce que vous dégagez, on a envie d'y aller. Merci beaucoup, Chico. Je rappelle que votre dernier album, qui s'appelle Best Of, avec quand même quelques inédits, est sorti en décembre dernier. Et puis, il y a ce patio de Camargue, le vieux gypsy que vous avez créé. Merci beaucoup, Chico. Au revoir.
Merci, bienvenue. Venez en Camargue.
On se retrouve dans un instant avec les histoires savoureuses de Nathalie Elal, les histoires de la Camargue. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Philippe Googler.
Et nous sommes en Camargue, on est bien dans la Camargue, là, vraiment jusqu'au fond. Nous allons partir maintenant avec Nathalie Elal au cœur de toutes les petites anecdotes, les petites histoires qu'elle sait débusquer. Un petit peu partout, on se demande où elle va les chercher. D'ailleurs, Nathalie, qu'est-ce que vous avez pour nous? Un western qui s'est passé en Camargue, c'est ça?
Pour moi, la vie va commencer. Et mon passé sort de l'oubli. Avec mes amis, pour moi la vie va commencer.
Alors c'est Johnny en Camargue. Alors c'est un film improbable, super kitsch de 1963.
Un western.
Oui, absolument, ça s'appelle D'où viens-tu, Johnny? Alors je vous fais le pitch hein, rapidement. Johnny Rivière, qui est un petit chanteur dans un petit orchestre parisien, un cœur pur, passionné de rock'n'roll, est engagé pour convoyer une valise. Et puis, à sa grande surprise, il découvre qu'elle contient... Mais bon sang, mais qu'est-ce que contient cette valise? Ben de la poudre, de la poudre blanche, de la coco. Eh ben oui, alors qu'est-ce qu'il fait? Ben il jette la poudre dans la Seine. Évidemment, il est menacé de mort. Il va partir se réfugier auprès des siens en Camargue, parce que Johnny n'est pas belge. Non, 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 il est originaire de Camargue. Enfin, dans le film, hein, je vous rassure.
Oui, parce que m'avait fait peur.
Oui, 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 bien sûr. Et puis là, il est rejoint par sa fiancée, Gigi, Sylvie Vartan. Puis il est traqué par ces vilains malfrats qui sont lancés à ses trousses. Bien sûr, il va démanteler ce réseau de trafiquants en passant sa vie à cheval avec sa guitare, il chante beaucoup d'ailleurs ce tube hein, de 1963 que vous avez écouté. Il y a des bagarres, il y a des chevauchées, il y a des décors de rêve, amour et chansons et bien sûr, dénouement heureux,
Et la chanson, c'est la chanson du film?
C'est une des chansons phares du film avec Ma guitare, autre titre de Johnny de cette époque.
Et le film est bien ou pas?
Bah écoutez, la même année est sortie quand même Les Tontons Flingueurs, Mélodie en sous-sol et Le Mépris. Donc à côté, je peux pas dire que c'est un chef-d'œuvre, mais enfin, les amoureux du taulier vont adorer forcément, s'ils l'ont pas déjà vu.
Faut le trouver en même temps. Hein.
Oui, c'est un... Oui, c'est collector, on peut dire ça comme ça.
Mais en même temps, après ce que vous avez raconté, on a envie de le voir.
Oui.
Alors, côté animaux, ça c'est les fables de La Fontaine, hein, c'est chevaux, taureaux, flamants roses.
Presque. C'est vrai qu'il y a peu de régions où les animaux font autant partie du patrimoine et l'histoire qu'en Camargue. Alors, je commencerai par le cheval, plus ou moins... C'est crin blanc là, c'est aussi en Camargue d'ailleurs. Plus ou moins sauvage, aujourd'hui c'est devenu un symbole parce que le cheval de Camargue, il est souvent blanc, il est petit et c'est surtout l'une des plus anciennes races au monde. Il paraît que son existence remonte à la Rome antique. Donc il est élevé évidemment en semi-liberté dans les marais du delta du Rhône, essentiellement utilisé pour le travail agricole. On le retrouve souvent qui galope dans l'eau très poétiquement. Il est dirigé par des fermiers pour contrôler les taureaux qu'on utilise pour la tauromachie et autres. C'est aussi le symbole de la culture équestre traditionnelle, une identité très forte à la fois.
Alors là, on est ça, passé c'est pas du... un cheval, ça,
non, hein. C'est plutôt une grosse bestiole avec des cornes qui s'appelle un taureau. Alors là aussi, c'est tout un travail.
Non, n'est pas plutôt sur un bœuf. Faites voir. Là.
Non, je reconnais bien le taureau de Camargue.
Ah oui, vous reconnaissez-vous?
Ouais, c'est un jeune taureau quand même.
Ah,
hein.
Peut-être un genou alors.
Un genou. Alors c'est vrai que les manadiers, c'est-à-dire les fermiers locaux et puis les gardiens, leurs employés, considèrent les taureaux presque comme leurs enfants. Ils vivent à leur rythme. Il y a vraiment un respect de ces animaux qui sont puissants, qui vivent toute l'année en semi-liberté. Ils sont élevés depuis des générations pour la table, comme aussi pour une variante de la corrida, mais sans effusion de sang, ça tout le monde va apprécier, sans qu'on appelle la course à la cocarde, un exercice de vitesse et de courage.
Qu'est-ce que c'est ça? C'est un peu comme les vaches shetlandaises?
Non, pas exactement. En fait, c'est un petit morceau de tissu rouge qu'on appelle la cocarde qui va être attaché à la tête du taureau et les raseteurs, c'est-à-dire ceux qui sont dans la compétition, ils sont vêtus de blanc, ils essayent de s'approcher suffisamment pour arracher la cocarde de la tête de l'animal problème, évidemment, enfin, difficulté principale, les deux cornes très longues, très pointues. Donc, vaut mieux courir très, très vite, voyez-vous.
Ah, ouais.
Alors, bien sûr, il y a un prix en argent pour le vainqueur. Le taureau, un petit peu énervé quand même, il souffle un peu, il est reconduit intact à ses chers pâturages. Et puis, s'il n'est pas assez agressif, autant vous le dire tout de suite, bah, il va finir en ragoût, hein, la fameuse gardiane dont on va parler tout à l'heure, je suppose. Si vous voulez d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, une expérience taurine complète, enfin gastronomique, il y a le bouillon pour macho, c'est-à-dire la soupe de testicules de taureau.
Ah, oh. vous en prendrez bien une petite part.
Pourquoi pour macho, ça a une efficacité particulière?
Bah, il paraît que ça rend force la virilité. Comment vous dire, moi j'ai pas essayé, excusez-moi, on m'en a pas greffé une paire, hein, pas encore.
On va voir ce qu'Olivier en pense.
Et à propos des courses de taureaux, des vachettes, alors on s'éloigne un peu avec les vachettes landaises, moi j'ai appris un truc dingue mais qui est vrai, c'est que vous savez les gars qui sautent par-dessus les vachettes landaises, bon bah des fois les vaches elles leur donnent un coup de tête dans les fesses, et bah, des fois la corne rentre vraiment au mauvais endroit. Et profondément. Et il y en a plein qui vont à l'hôpital à cause de ça. Et je ne savais pas du tout. C'est hyper dangereux.
Bonjour,
et ça doit faire
qu'est-ce
très,
qui vous
très
est
mal.
Arrivé oh, bah, c'est un coup de corne de vachette.
Non, mais j'imagine la douleur.
Oui. Effectivement.
Les flamants roses.
Ah oui, les flamants. Alors dans les lagunes et les étangs, vers les Saintes-Maries de la Mer ou Gros-du-Roi, c'est vrai qu'il n'y a que dans cette région de France qu'on peut trouver du flamant rose sur une patte. Moi, j'admire vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais croiser à Paris, mais il n'y en a pas.
Et vous savez d'ailleurs pourquoi ils se tiennent sur une patte?
Ben non. Non,
parce que s'ils l'enlèvent, ils tombent.
C'était une blague belge, mesdames, messieurs. Très bien. Et le sel? On n'a pas parlé du sel.
Ah, le sel de la Camargue. Alors, vous savez d'ailleurs qu'au passage, le mot salaire, bah, le mot il vient du latin salarium, parce que les soldats romains percevaient une poignée de sel en guise de salaire, justement, puis ça a été remplacé par de l'argent. Enfin, toujours est-il qu'on exploite le sel à Salins-de-Giraud depuis l'Antiquité. Alors, on trouve actuellement encore des descendants de familles d'origine grecque, arménienne, italienne. C'est des descendants d'ouvriers qui ont fui leurs conditions de vie difficiles dans leur propre pays pour ramasser le sel. C'est des milliers d'hectares d'espaces naturels balayés par le Mistral à perte de vue. C'est un travail fantastique avec des outils bien spécifiques pour les saunier. C'est remarquable à voir.
Merci Nathalie. Quelle belle collection d'infos. J'adore. À suivre sur Europe 1, encore plus de Camargue. La Camargue des saveurs, celle qui se déguste avec Olivier Pouls dans quelques secondes sur Europe 1.
Heures, 18h. Et si on partait? Philippe Googler.
Si on partait très très loin tout à l'heure à partir de 17h après le flash, nous serons au Sri Lanka. C'est un pays qu'on croit plutôt tropical alors qu'au centre, il y a des montagnes assez élevées qui font qu'il y a une atmosphère quasi écossaise avec des brumes au milieu du Sri Lanka. Comme ça, la dernière fois que je suis allé, j'ai chopé un rhume là-bas. Et franchement, quand on va dans ce genre de pays, on ne pense pas emmener une petite laine.
Mais il n'y a pas de whisky.
Il n'y a pas de whisky.
Mais il y a du thé.
Il y a un alcool, je ne sais plus le nom, absolument dégoûtant.
Le rack.
Ah oui, ça c'est absolument infect. Enfin bon, on en parlera tout à l'heure. Tout de suite, nous sommes en Camargue avec des flamants roses par milliers. Il y en a plus de 300 000 pendant l'été qui se rassemblent là-bas.
Mais ça ne se mange pas.
Ça ne se mange pas, vous êtes sûr?
J'ai jamais vu personne manger du flamant rose.
Bah, pas, il ne doit pas y avoir grand-chose sur la pâte, en tout cas. Ça ne doit pas être la pièce de choix. Qu'est-ce qu'on mange du taureau?
On mange le taureau, évidemment, puisque Nathalie nous en a parlé. Le taureau de Camargue, c'est la première appellation d'origine protégée d'une viande rouge en Europe. C'est-à-dire quand même qu'il y a une petite tradition, un petit savoir-faire, ça remonte à 1996. Et c'est vrai que ces taureaux ont toujours été là-bas depuis probablement l'Antiquité. C'est une race très très spécifique qu'on appelle le taureau Rasso des Biou.
Rasso des
oui,
Biou.
La race, c'est le nom, c'est la race typique du taureau camarguais. C'est un petit taureau, hein, il est foncé, il est trapu, il n'est pas très lourd. Et puis surtout, il vit en semi-liberté. Et cette vie en semi-liberté, lui apporte une nourriture.
Qu'est-ce que c'est la semi-liberté? On est libre ou on ne l'est pas? Il y a pas de semi-liberté.
Alors, on les rentre peu, en fait. La plupart du temps, ils courent, ils vaquent à leurs occupations, ils sont dans la plaine, ils se nourrissent comme ils veulent. Et puis, de temps en temps, ils ont leurs gardiens, leurs gardiennes qui viennent les récupérer, les chercher, puis quand il fait trop froid, on est obligé de les rentrer, leur donner une nourriture complémentaire, mais dès qu'on peut, on les laisse vraiment les plus libres possibles. Et c'est donc normalement sont, vous l'avez dit tout à l'heure, élevés pour ces fameuses courses et qui ne sont pas forcément destinés à la table. Ce n'est pas un élevage purement destiné à la bouche.
Mais le fait qu'ils courent comme ça, qu'ils gambadent dans la nature, ce n'est pas de la viande dure et nerveuse.
Et bien voilà, ça donne quand même des animaux assez musclés, peu gras. Ouais. Et donc, moi, j'en ai mangé plusieurs fois et je dois vous avouer que notamment une côte de taureau de Camargue, c'est pas ce que je préfère. Ça manque un peu de moelleux. Alors c'est pour ça qu'il la prépare. Il y a une grande spécialité. Il la prépare en gardiane. Et la gardiane, qu'est-ce que c'est? Ben c'est une daube. Et la daube, ça permet quoi? Ben, d'assouplir la viande, évidemment.
Marinade. Ça mijote longtemps.
Voilà. Donc pour faire une bonne gardiane, il existe une charte depuis 2004 qui encadre la recette. Il y a quatre temps, donc il faut la marinade, bien évidemment, avec du vin rouge, des herbes, des épices. On va filtrer, récupérer cette marinade, on va faire revenir la viande et on va la singer, c'est-à-dire qu'on va l'enrober d'un petit peu de farine, ce qui va permettre après à la sauce d'épaissir. Et puis, on va laisser mijoter entre 2h et 2h30, parce qu'en plus, on prend souvent des bas morceaux, ce qu'on appelle les bas morceaux, donc c'est des morceaux qui sont soit maigres, soit qui sont un petit peu gélatineux. Et donc, la longue cuisson à une température pas trop élevée va permettre d'avoir une viande bien fondante. Et là, franchement, vous allez vous régaler de cette gardiane de taureau.
Et est-ce qu'ils cuisinent, comme en Espagne, la cola de toro, la queue de taureau?
Alors, ils cuisinent, on peut cuisiner évidemment toutes les parties. La queue fait tout à fait partie de ce qu'on mange dans un taureau. Pratiquement, c'est pas comme dans le cochon, mais dans le taureau, pratiquement tout est bon quand même.
Ouais, c'est rigolo la queue de taureau, je sais pas pourquoi.
Mais ça a quelle consistance?
C'est très gélatineux.
C'est gélatineux, osseux, il n'y a pas beaucoup de viande.
Non, c'est une texture très particulière, très gélatineuse. Ça s'utilise par exemple, effectivement, si vous voulez le mettre dans le gardien, ça va donner de la texture et ça va donner de la consistance à votre sauce.
Nathalie?
Vous avez goûté, Olivier, les testicules de taureau? Moi, ça m'intrigue.
Non, j'ai pas goûté. Mais
c'est pas assez téméraire,
non,
en fait.
Mais on m'en a jamais proposé, pour être honnête. Je pense que j'aurais goûté. Enfin, j'aurais réfléchi d'abord un peu quand même.
Ben Nathalie, vous allez nous en préparer.
Ouais. Mais bien sûr, j'en ai sous la main. Tiens, ils sont là.
Et pour accompagner cette gardiane de taureau, du riz camarguais. Et là aussi, c'est une spécificité. On n'imagine pas qu'en France, on produise du riz. Eh bien, la Camargue est la région dans laquelle on produit énormément de riz. C'est une
curieux
culture
quand même. Alors, ça, du riz en France.
Ça date du XVIe siècle et c'est Henri IV qui avait ordonné que l'on cultive du riz en Camargue. Et les premières rizières, en fait, avaient un but, c'était assécher les terres. Parce que le riz est extrêmement consommateur d'eau. Et donc, en asséchant les terres, on a ensuite pu gagner de la place pour planter ensuite des potagers, de la vigne, des arbres fruitiers, etc. Mais c'est grâce à la culture du riz qu'on a asséché une partie de la Camargue. Alors, il y a une indication géographique protégée depuis 2000 et on trouve absolument toutes les sortes de riz en Camargue. Du riz rond pour faire des risottos, par exemple. Du riz parfumé, vous savez, ces fameux riz qu'on pense ne venir finalement que d'Asie, mais pas du tout. On trouve des riz parfumés en Camargue. Du riz long, du riz rouge, du riz complet, etc. Et aujourd'hui, il y a à peu près 200 riziculteurs en Camargue qui produisent un riz d'extrêmement bonne qualité et souvent meilleur que les riz asiatiques dont on ne sait pas toujours d'où ils proviennent, comment ils sont faits et surtout comment ils sont traités. Et là, je fais une petite parenthèse, quand on achète du riz qui vient d'Asie, il faut bien le laver parce que ce n'est pas toujours très clean. Alors que le riz camarguais, surtout que lorsqu'il est fait en bio, et il y en a de plus en plus, vous garantit une qualité de produit absolument irréprochable.
Mais le riz, historiquement, il est venu d'Asie, on l'a importé d'Asie pour le planter en Camargue.
Bien sûr, il est arrivé d'Asie et il a été planté, alors probablement dès le 15e, 16e siècle, mais très encouragé par Henri IV. Et surtout, il fallait un microclimat pour le faire, parce que le riz, ça ne pousse pas n'importe où. Et donc, il fallait cette humidité et en fait des fluctuations de température pas très importantes. Pas un hiver trop marqué et une chaleur, évidemment, l'été, ça ne pose pas de problème, mais il ne faut pas qu'il y ait un hiver qui soit trop marqué. Et résultat des courses, le riz s'épanouit parfaitement bien en Camargue.
Merci beaucoup, Olivier, pour toutes ces précisions. Dans un instant, les bons tuyaux de Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet pour aller en Camargue.
Europe 1, Philippe Googler.
Très bien. Je vois que cette émission progresse en contenu.
On parle de testicules de taureau,
on a
etc.
Une vraie richesse.
C'est dense, on va dire.
On va éviter de lui en donner à manger tout de suite.
Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet, expliquez-nous comment bien profiter de la Camargue.
Alors vous savez que j'aime bien les oiseaux, Philippe. Ouais. L'observation des oiseaux, c'est un peu mon truc, de plus en plus dans mes voyages. Et c'est vrai qu'on a parlé de la baie de Somme l'autre jour. Aujourd'hui, on est en Camargue et c'est un grand site d'observation pour l'ornithologie. Alors, il y a une réserve naturelle que je conseille vivement, c'est la réserve naturelle du pont de Gaux. Celle-là, il ne faut vraiment pas la manquer. Elle est super bien organisée pour les visiteurs. Vous n'avez pas besoin d'être un ornithologue averti. Il y a des panneaux explicatifs absolument partout et des postes d'observation qui vous permettront d'apprécier les quelques 200 espèces d'oiseaux qui vivent sur place, hérons, grues, ibis et surtout les flamants roses. On vient dans cette réserve pour les flamants roses. Alors, je précise, avec le confinement, ces flamants roses, il y en a encore plus que d'habitude.
Ils sont confinés eux aussi.
Ils se sont déconfinés, ils ont pris encore plus confiance en eux et c'est vrai qu'il y en a absolument partout. Il n'y a pas besoin de jumelles, ils sont à côté de vous à quelques mètres. Donc pour faire des photos.
À quelques mètres, vraiment.
Oui, Philippe, à quelques mètres.
Mais ils ne s'enfuient pas.
Et ils ne s'enfuient pas. Ils ont l'habitude de voir des hommes, de voir les humains. Ils ne sont pas du tout intimidés, ils ne sont pas du tout farouches. Donc pour faire des photos, c'est vraiment génial. Alors si vous avez de la chance, là il faut un peu plus de chance, vous pourrez assister à un spectacle prodigieux. Vous savez quoi ? Pour rester un petit peu dans la thématique un petit peu amoureuse, c'est la parade nuptiale des flamants roses. Alors je ne vais pas vous la mimer dans ce studio. Ne me demandez pas des choses hors normes, Philippe.
Mais vous racontez-nous cette parade quand même.
Je vais quand même vous dire. Alors ils font les beaux, ces fameux flamants roses. Faire les beaux, ça veut dire quoi quand on est un flamand ? On déploie ses ailes. Les hommes et les femmes, mâles et femelles, hein, je précise bien. Les deux sont à parité. On déploie ses ailes. Et c'est à celui ou à celle qui sera le plus rose pour trouver l'élu de son cœur. Et tout ça dans une cacophonie incroyable parce qu'il faut bien sûr se faire remarquer. J'ai une autre petite anecdote, Nathalie. Est-ce que ça vous intéresserait d'en savoir un petit peu plus sur la vie de couple des flamants roses ?
Vous voulez dire sexuellement parlant, comment ça se passe ?
J'irai pas jusque-là, mais on va dire sur la vie sentimentale. On dépassera pas le stade de la sentimentalité.
Mais je sais pas, ils mangent une crevette, ils enfilent une au partenaire.
Non, écoutez, c'est plus gentillet que ça, vous me connaissez. Quand chacun a trouvé sa chacune, bah, les couples de flamants roses restent ensemble fidèles pendant un an pour pondre un œuf.
Vous trouvez ça exceptionnel, vous, de rester fidèle.
On voit le grand voyageur. Hein.
Non. Alors, ce qui est vraiment exceptionnel, c'est qu'ils font les tâches du ménage à parité. Hein. Et l'année suivante, Nathalie, je précise, alors vous allez voir que là, c'est beaucoup moins exceptionnel. Chacun reprend sa liberté pour une nouvelle. On remet les compteurs à zéro. Ah. Voilà. Voilà la particularité de ces flamants. J'aime beaucoup leur vie à ces oiseaux.
Je vois. Alors pour ceux qui, une fois qu'on aura bien observé les flamants roses, si on veut observer les taureaux et les chevaux, comment on fait pratiquement ?
Alors on a beaucoup parlé de ces deux espèces-là, mais je veux quand même un peu casser le mythe. Vous savez, quand on est sur place, les taureaux et les chevaux, on ne les voit pas si bien que ça. Ouais. Déjà, il y a des hautes roselières, et puis les taureaux, ils ne bougent pas dans leur pré. C'est des gros fainéants, des patapoufs, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ils sont là bien tranquilles, ils broutent. Et ils sont loin de vous en plus.
Puis c'est dangereux en plus, et puis, on les approche.
Non, ils sont farouches. La légende veut qu'ils soient dangereux. En fait, ils sont très farouches. Donc, ça peut être un petit peu décevant. Mais j'ai une astuce, justement, pour que vous ayez la meilleure expérience possible d'approche de ces deux belles espèces emblématiques de la Camargue. C'est qu'il y a une photographe sur place qui s'appelle Cécile Domins, qui organise des ateliers photos dans une manade privée. Et cette fois-ci, vous êtes sur une benne tirée par un tracteur. Et là, vous vous positionnez avec les manadiers et les gardiens. Ils vous font des vraies expériences où ils font défiler les taureaux et les chevaux. Ils font leur travail, en fait.
Les taureaux défilent devant vous.
Défilent devant vous avec les chevaux dans une petite lumière du matin qui est absolument sublime. Il faut y aller entre 6h et 7h le matin. Oui. Et là, vous avez un spectacle absolument divin et prodigieux.
Mais c'est un safari taureau au lieu d'un safari photo, finalement,
votre
histoire.
C'est exactement ça. C'est un safari qui est organisé et qui vous permet enfin d'avoir une observation privilégiée de ces deux très belles espèces. Encore une fois, je précise que normalement, vous le verrez pas si bien que ça. Le seul moyen, c'est de les approcher dans une manade privée. Et en plus, vous aurez l'occasion de discuter avec ces fameux gardiens et ces fameux manadiers. C'est une famille qui organise ça. Ils sont des passionnés. Ils vous raconteront un petit peu la conduite du troupeau, passer les fameux chevaux d'un marais à un autre, d'un pré à un autre, comment les taureaux réagissent. C'est vraiment toute une culture que vous découvrirez, en plus de faire de jolies photos. Quel que soit votre niveau, d'ailleurs.
Et pour ça, comment on fait ? Il y a des organismes qui...
Oui, c'est une photographe sur place. D'accord. Ça s'appelle Cécile Domins, vous trouverez son site. Et elle organise ça tout l'été, justement, pour les amateurs qui veulent approcher dans de bonnes conditions ces deux espèces emblématiques.
Alors la Camargue, c'est assez plat, donc pour faire une jolie photo de haut, c'est pas simple.
Ah, c'est un peu le problème de cette Camargue. Alors évidemment, moi je suis photographe, j'étais un petit peu embêté. Pareil, j'ai une petite astuce. Je vous ai trouvé les plus hautes montagnes de Camargue, Philippe.
Quelle altitude?
25 mètres.
Ah, voilà. Oui, c'est impressionnant.
Alors ces montagnettes, appelons-les comme ça, en fait, ça s'appelle des camels. C'est des montagnes de sel. On a parlé du sel, de l'or blanc de la Camargue. Tout ça, ça se trouve au Salin d'Aigues-Mortes. Ce sont des montagnes de sel, du sel qui a été empilé, qui a été extrait de ces salins. Il faut monter sur ces
camels.
C'est un gros tas de sel.
Mais c'est rigide, on peut monter dessus, vraiment?
On peut monter dessus, tout à fait. Et là, vous avez un super point de vue, à la fois sur les marais salants avec leur couleur rose nacrée. Alors ça, c'est sublime. Vu d'en haut, c'est un paysage exceptionnel. Ils ont cette couleur rose nacrée en raison d'une algue microscopique qui est riche en bêta-carotène, je précise. Et puis, vous avez dans ces marais salants les remparts de la ville d'Aigues-Mortes qui se reflètent dans ces tables salantes. Ça, c'est aussi un spectacle emblématique, Philippe.
Ah, c'est chouette. Et puis, alors, il y a les fêtes.
J'ai adoré ces fameuses fêtes camarguaises. Je les ai adorées pour une raison déjà toute simple, et je veux rassurer les auditeurs et les auditrices, il n'y a absolument pas de sang qui coule, c'est pas du tout sanguinolent. C'est vraiment ludique. C'est festif, les fameux rasetteurs que Nathalie a évoqués tout à l'heure. C'est vraiment, on se fait plaisir. Il n'y a pas d'objet tranchant utilisé. C'est vraiment, et j'allais dire, je suis impressionné parce que les rasetteurs prennent des risques énormes. Là, pour une fois, c'est l'humain qui est en danger. C'est pas du tout le taureau qui lui est vénéré. Et les meilleurs taureaux ont ensuite des statues. Donc ils sont, ils ont une très belle carrière. Ces
et ils
taureaux.
Finissent pas dans l'assiette.
Et ils finissent pas dans l'assiette. Ce sont des vraies stars sur place. C'est pas les rasetteurs les stars. C'est vraiment le taureau. Voilà. Ils sont beaucoup plus agiles que les taureaux d'ailleurs espagnols. Parce qu'ils sont plus musclés, plus légers,
plus
agiles. Ils sont très rapides.
Merci beaucoup Jean-Bernard, on a pris des notes. Et là, on peut pas rater la Camargue, c'est pas possible avec toutes ces infos. Merci beaucoup, on se retrouve dans un petit instant après le flash de 17h pour un plus long voyage encore, très très loin. Nous allons partir, vous voyez la carte, vous voyez l'Inde en bas à droite, une petite île qui a l'air de rien, on l'appelle la perle de l'océan Indien, et c'est un nom bien mérité, vous comprendrez pourquoi. A tout de suite.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et si on partait, deuxième heure, c'est l'été. C'est donc le moment de lâcher prise. Je vous emmène chaque jour, chaque après-midi sur Europe 1 aux quatre coins de la planète. Laissez-vous faire, laissez-vous porter. Décollage maintenant.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si je vous emmenais dans un petit pays, un tout petit pays, mais qui est comme un concentré, un petit pays capable sur quelques centaines de kilomètres de vous en faire voir de toutes les couleurs, de passer en un clin d'œil de la plage à la jungle, de villes surpeuplées à des montagnes fraîches et brumeuses, presque à l'ambiance écossaise, et de vivre comme ça à chaque étape des émotions radicalement différentes. Eh bien, ce pays, c'est une petite pépite. C'est le Sri Lanka. Et là-bas, au Sri Lanka, j'ai vécu une expérience qui m'a marqué pour la vie. Ce que j'ai vu et ressenti, je ne l'oublierai jamais. On est dans un pays de petites montagnes, avec un mélange de forêts, de rizières, tout ça sous un soleil de plomb. Il fait très très chaud, vous savez, cette chaleur écrasante. Et l'idée, c'était au cours de mes voyages en train, pas comme les autres, c'était de descendre dans une mine de pierres précieuses. Je suis dans la région de Ratnapura, qui signifie la ville des pierres précieuses en sanskrit. On y trouve des saphirs, des topazes, des rubis, beaucoup de choses. Donc pour moi, une mine, c'est un truc énorme. C'est des bulldozers, des camions partout, c'est une industrie. Mais là, quand j'arrive, je vois juste un champ avec deux petites cahutes, quelques hommes ruisselants de transpiration. Il y a dans le fond un vague bruit de pompe ou de groupe électrogène, je sais pas trop. Et sous les cahutes, une sorte de puits, un gros puits. Alors je vais vers un des mineurs, je lui demande si c'est par là qu'on descend, dans la mine, si c'est profond. Alors il me répond, bah oui, c'est là, ça descend d'environ 20 mètres, tout droit, à pic. Alors c'est quand même impressionnant, hein, c'est comme une colonne verticale de 20 mètres qui s'enfonce dans le sol. Donc je lui demande, mais comment vous descendez ? Ben à l'échelle. Donc il faut imaginer un puits qui plonge vers l'obscurité, on ne voit pas le fond, avec une échelle en bois détrempée. Alors ça sent pas le grand luxe en termes de conditions de sécurité, mais évidemment j'ai quand même envie d'aller voir un petit peu comment ça se passe en bas, au moins de croiser le regard des hommes du fond. On hésite un peu, mais bon, allez, on décide d'y aller. Je passe le premier, je pose un premier pied sur le barreau de l'échelle, mais mon deuxième pied, il cherche longuement le deuxième barreau en fait. Il est beaucoup, beaucoup plus bas. Il faut se retenir par les bras avant de l'atteindre. Et il y a 20 mètres en dessous de moi, 20 mètres à pic. Les barreaux sont en plus extrêmement glissants. Ils sont trempés, couverts de boue. Et en plus, il y a l'odeur. Une odeur de champignons. Parce que le bois, dans la chaleur, dans l'humidité comme ça, ça moisit. Et tout à coup, 10 mètres plus bas, à mi-chemin à peu près, une sorte de pluie tropicale s'abat sur moi, mais une pluie intense, drue. C'est tellement fort que je ne peux pas lever la tête et ouvrir les yeux. Alors je suis accroché à mon échelle, je suis trempé, rincé, je suis paralysé parce que j'ose plus faire un mouvement et je sens que le rythme du cœur s'accélère et là, je sens quand même la peur monter un peu. Mais bizarrement, je reste extraordinairement concentré. Je sais que je ne dois pas glisser, que je ne peux pas glisser, que je ne dois pas glisser. Je ne pense qu'à ça, mon cerveau ne pense qu'à ça. Et bien, je reste 10 minutes comme ça, sous l'eau, sous la pluie. Et la pluie fait tellement de bruit, je ne peux pas communiquer avec qui que ce soit. Je ne peux pas remonter avec les trompes d'eau qui me tombent dessus. Et je ne peux pas entendre ce qu'ils me disent en haut. Donc, je reste bloqué, comme ça, sous la pluie. 20 minutes plus tard, l'eau s'arrête d'un coup, et donc je crie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, les mineurs relatent, me disent, bah, c'est rien, on a dû pomper l'eau du fond, il y en avait trop, les mineurs en bas risquaient de se noyer, donc il fallait le faire. Et là, je comprends que les tuyaux qui remontent l'eau et qui passent par le puits sont en tellement mauvais état qu'une bonne partie de l'eau qui remontait n'arrive pas en haut et me retombait sur la figure. Donc je me demande si je ne suis pas en train de descendre en enfer. Je continue, alors j'arrive en bas, et là, il y a un mineur tout gentil qui m'attend au pied de l'échelle. Il baigne dans l'eau jusqu'à la taille, mais la situation est dantesque. On est les jambes dans l'eau, il fait une chaleur infernale, tout est trempé, et surtout, il y a des câbles électriques partout, des câbles qui trempent dans l'eau. Alors là, j'ai parfaitement conscience que la situation est quand même un peu spéciale, mais ce qui me fascine, là, c'est le sourire des hommes qui m'accueillent. Je m'attendais à des visages plutôt fermés, plutôt durs, des visages de travailleurs qui sont dans des conditions quand même extrêmement difficiles pour gagner leur vie, mais pas du tout. Je vois des grands sourires et des jeunes gaillards qui sont là, qui sont contents de me montrer leur univers. On s'enfonce dans la galerie. Et là, je vais apprendre un truc énorme. Je me rends compte en marchant que l'eau monte. Elle monte très, très vite. J'en ai déjà presque jusqu'à la poitrine. Et si ça monte encore, j'en aurai bientôt au-dessus de la tête. Je suis dans une galerie fermée, ce sera la noyade. Alors, ils m'expliquent très gentiment, les mineurs, qu'ils n'ont qu'un seul moteur. Le moteur qui sert à pomper l'eau, soit il envoie de l'air au fond, comme en ce moment, pour qu'on puisse respirer, soit il pompe l'eau. Mais les deux en même temps, c'est pas possible. Et c'est complètement fou. Et pour l'instant, visiblement, il vaut mieux qu'on ait de l'air. La situation me paraît insensée. Je suis au fond d'une mine avec 6 mineurs, avec un grand sourire. On a de l'eau jusqu'à la poitrine. Et toute notre vie dépend d'un seul petit moteur, gros comme une tondeuse à gazon. Et pour eux, tout semble normal. C'est leur quotidien, c'est tout. Je vois pas de peur, pas de stress, pas de tristesse dans leurs yeux. Et pourtant, leurs conditions de vie sont incroyablement difficiles. Et alors, dans un petit renfoncement d'un mètre carré environ, je vois des mineurs qui creusent avec leur regard toujours pétillant. Et là, je comprends ce qui les anime. C'est l'espoir. L'espoir du chasseur de trésors. Parce qu'ils me parlent tous de la grosse pierre, celle qui les rendra riches, celle qui va changer leur vie. Le plus gros saphir qu'on ait retrouvé dans la région faisait près de 1404 carats. En gros, il valait 100 millions de dollars. Et il y a un des mineurs qui me rajoute Ah, si c'est pas moi qui la trouve, ben c'est pas très grave. On partage tous en bas. On partage tous nos bénéfices, on est une équipe. Dès que quelqu'un trouve une pierre, on récupère chacun 3% de sa valeur. Et comme on est 10, ça fait 30%. Et puis, il y a 70% pour le propriétaire de la mine. Et moi, je leur demande, mais qu'est-ce que vous feriez de l'argent si vous deveniez riche? Et là, il y a une réponse d'un des mineurs très touchante qui me dit, bah, moi, je m'achèterai une maison et puis je reviendrai travailler à la mine. Car les camarades, ça me manquerait, on s'entend bien ici. Et puis, quand t'as goûté à ça, tu peux plus t'en passer.
16h, 18h, et si on partait? Philippe Googler.
La suite de nos aventures au Sri Lanka, dans les profondeurs du Sri Lanka, dans quelques instants sur Europe 1.
Europe 1. 16h, 18h, et si on partait? Philippe Googler.
Nous sommes très très loin déjà, dans les profondeurs du Sri Lanka, comme toutes les après-midi sur Europe 1, un grand voyage. En direct depuis Colombo, la capitale du Sri Lanka, Olivier Duflo, il vit depuis 4 ans là-bas. Il est le fondateur de Tukitizi, une agence qui organise des visites guidées de Colombo en tuk-tuk. Bonjour.
Bonjour, bonjour, merci pour l'invitation.
Ben avec plaisir, je vous entends comme si vous étiez à côté de moi, c'est incroyable. Vous êtes à Colombo, quelle ambiance autour de vous? C'est toujours le même bazar cette ville, parce que moi j'ai un souvenir de gros bazar, Colombo.
C'est le bazar, c'est le bonheur, c'est pour ça que j'aime cette ville. C'est exactement ça, c'est un vrai bazar organisé.
Et alors, pour moi c'est la ville des tuk-tuks, il y en a partout, il y en a des millions.
Il y en a des millions, et pour vous dire, vous avez 1 million de tuk-tuk pour 22 millions d'habitants dans ce petit pays. Donc il y en a une grande partie à Colombo, et c'est un vrai bonheur, ça circule entre les bus, entre les voitures, et c'est le moyen le plus facile de circuler dans cette ville qui est effectivement extrêmement chargée en circulation.
Alors moi je voudrais repréciser ce que c'est qu'un tuk-tuk, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un tuk-tuk.
Un tuk-tuk?
Ouais, allez-y.
Un tuk-tuk ou un rickshaw en indien, un tuk-tuk, c'est un véhicule à trois roues, une roue devant, deux roues derrière. Et tuk-tuk, parce que c'est un moteur à deux temps qui fait tuk-tuk très vite. Tuk-tuk-tuk-tuk. Donc on l'appelle le tuk-tuk.
Et alors c'est un véhicule un peu hybride, c'est une espèce de moto à trois roues. Vous avez le chauffeur derrière un guidon et puis deux passagers sur une toute petite banquette à l'arrière. Et c'est couvert par un truc en toile. C'est pas très beau.
Exactement. Non, c'est pas très sexy, mais alors deux passagers, parfois quatre ou cinq hein, derrière.
et vous aimez bien le tuk-tuk, parce que c'est quand même dingue, un Français qui va lancer des tuk-tuk au pays du tuk-tuk, faut être courageux quand même.
Ben, c'était ma grande découverte, la première fois que je suis arrivé au Sri Lanka il y a 10 ans, et en fait je me suis rendu compte que c'était l'expression de la liberté au Sri Lanka, le tuk-tuk. Vous le prenez n'importe où, à n'importe quelle heure, il y a toujours quelqu'un qui s'arrête. Et puis, vous circulez extrêmement facilement. Vous créez la troisième voie quand il n'y en a que deux, la quatrième quand il y en a trois. Et donc, le tuk-tuk, voilà, vous le trouvez partout à Colombo. Ça va plus vite que les voitures, plus vite que les bus. Et ça se gare partout, surtout. Donc, c'est extraordinaire. Et moi, j'ai eu envie de partager ça aux gens que je recevais ici à Colombo et de montrer la ville grâce au tuk-tuk et surtout pouvoir accéder à des quartiers extrêmement vivants et compliqués d'accès avec des voitures. Donc le tuk-tuk, c'est la meilleure façon de se perdre dans cette ville chaotique.
Alors, le Sri Lanka, moi, je dis que c'est un concentré de tout, de montagnes, de plages paradisiaques, d'ethnies complètement différentes, etc. Comment vous le décririez en général, le Sri Lanka, vous?
Mais c'est ça, le Sri Lanka, en fait, c'est peut-être le plus beau pays du monde. C'est magnifique, le Sri Lanka, parce que vous l'avez parfaitement introduit, vous avez un tout petit pays. Il y a quand même beaucoup de monde dans ce petit pays, mais vous avez 400 kilomètres du nord au sud, mais vous mettrez 3 jours pour les faire, parce que les routes, elles sont un peu chaotiques, elles sont en bon état, mais il y a du monde, il y a de la vie au bord des routes, on s'arrête tout le temps. La circulation, c'est du 40 kilomètres heure de moyenne. Et vous allez de montagne en plage magnifique, bordée de cocotiers. Vous avez des régions très, très, très sèches au nord du pays. Et puis, vous l'avez dit, des montagnes magnifiques, verdoyantes, avec les champs de thé au milieu. Il y a de tout, il y a un concentré. Il y en a pour tout le monde au Sri Lanka. Les gens qui aiment la baignade, les gens qui aiment marcher, les gens qui aiment découvrir.
Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est grimper dans les montagnes au centre du pays, parce qu'on passe au milieu de plantations de thé absolument magnifiques. Et le mieux, je trouve, c'est d'y monter en train. Je ne sais pas si vous y êtes monté avec le train postal, vous.
Bien sûr, bien sûr. C'est magnifique. Vous partez de Colombo, il fait 40 degrés, il y a un taux d'humidité monstrueux. Et donc, vous partez habillé légèrement, puis vous allez monter petit à petit, vous allez vous couvrir, parce que la brume va arriver, les paysages de thé aussi. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point on va perdre en température entre Colombo et Candie notamment, et ensuite Ella dans les montagnes. Et c'est magnifique, ouais.
Quelle est l'ambiance dans les trains aujourd'hui ?
Ce qui est génial dans les trains, c'est qu'en fait, vous montez sans avoir apporté à manger, de toute façon, vous allez manger. Parce que les gens à côté de vous, les gens, ils vont tout partager. Ils vont partager leur déjeuner. Ils vont partager aussi leur musique. C'est extrêmement familial et vous n'allez pas vous ennuyer. En plus, les portes, elles sont ouvertes en permanence. Donc, vous pouvez être sur le marchepied avec votre appareil photo, profiter des paysages de thé, des paysages verdoyants. C'est une aventure en soi, le train. C'est vraiment un voyage. C'est complètement dépaysant.
En ce moment, quel climat vous avez au Sri Lanka ? Quelle est la meilleure période pour y aller pour nous, Européens ?
Alors, ce qui est génial pour nous, Européens, c'est qu'on peut y aller tout le temps. En fait, actuellement, vous êtes en été en Europe, en France, et vous irez plus facilement sur les côtes est du pays, où les plages sont calmes, où l'eau est calme et les plages sont magnifiques. Alors qu'à l'ouest, Colombo notamment, là, la mer est un peu plus agitée. On est en période de mousson sur la côte ouest et la côte sud. Enfin, quand on dit mousson, c'est une petite mousson. Il ne pleut pas 15 jours de suite. Donc, on alterne entre pluie et beau temps. Il fait toujours très, très beau. Hein. Je vais vous le dire, aujourd'hui, c'était le cas. Et vous pouvez venir, mais la meilleure saison, c'est peut-être entre décembre et le mois de mars, le mois d'avril, ouais. Où là, toute la côte sud et la côte ouest s'offrent à vous, avec aussi une température idéale dans les régions du centre et du nord. Donc, alors, toute l'année.
Avec des climats très différents dans l'île, hein, vous le disiez, le centre dans les montagnes, il fait tellement frais, il y a de la brume, les Sri Lankais sont en doudoune, hein, et on ne s'attend pas à voir ça, parce que quand on part dans le pays, on ne prend pas un bonnet, ils sont en doudoune, vous allez attraper froid, parce que vous avez eu tellement chaud avant que vous n'avez pas prévu le coup, et puis il y a des petits manoirs qui datent de l'époque de la colonisation, qui sont vraiment inspirés par l'Angleterre et par l'Écosse. Et vraiment, c'est spectaculaire de se retrouver là, au milieu du Sri Lanka. Moi, j'adore ce coin. Je ne me rappelle plus le nom de la ville, là, au milieu des thés. Aidez-moi.
Ella.
Noera Elia.
Noera Elia, tout à fait.
Ah, Ella pour le thé. Ella exactement.
Thé, ouais.
Bon, on se retrouve dans un tout petit instant pour continuer à évoquer le Sri Lanka. Comme chaque jour à 18h, nous faisons un grand, grand voyage. Et puis, nous vivrons là, dans quelques secondes, des traditions religieuses qui font froid dans le dos. Moi, ça, j'ai été sidéré en voyant ça. À tout de suite.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait tous les jours entre 16h et 18h, nous sommes dans ce pays qui est un concentré de paysages très différents et d'émotions, le Sri Lanka.
Europe 1, Philippe Googler.
Quand je vous parle d'émotions au Sri Lanka, je parle de moments forts et de grands événements comme la Perera de Kandy, qui est au centre du Sri Lanka. C'est une incroyable procession bouddhiste d'éléphants parés de tissus précieux, d'or. C'est étincelant, c'est lumineux. Mais ça peut être aussi des petites processions de villages sur lesquelles vous tombez comme ça, par hasard, en circulant sur une petite route de montagne. Ça m'est arrivé une fois, on roulait comme ça sur une route et c'était au centre du pays, c'était un peu sinueux. Et puis tout à coup, on voit des gens de plus en plus nombreux qui convergent vers un village. Et là, il y a de la musique plutôt joyeuse. Alors ça ressemble à un défilé un peu en désordre, assez sympathique. Donc on s'arrête, j'essaie de me glisser un peu dans la foule. Tout à coup, je vois surgir quelque chose d'absolument sidérant. Faut imaginer un camion Ben, au-dessus duquel est fixée une longue poutre qui va de l'arrière du camion jusqu'au toit de la cabine du chauffeur et même au-delà. Elle passe un peu à l'avant du camion, elle dépasse. Et à l'extrémité de cette poutre, donc côté devant la cabine du chauffeur, qu'est-ce qu'il y a suspendu en l'air ? Eh bien, un homme. Un être humain, vivant hein, bien sûr, qui est suspendu, promené au-dessus du sol et des foules, mais pas juste pendu avec des cordes, il est pendu par des dizaines de petits crochets. Vous savez, la forme d'un crochet de boucher, mais petit. des dizaines de petits crochets comme ça qui lui rentrent dans la peau et dont chacun est relié à une petite corde elle-même achetée à la poutre. Et il flotte comme ça en l'air au milieu de la procession avec le camion qui avance tout doucement. Alors vous allez me dire, mais c'est horrible, c'est atroce. Et donc moi, c'est ma première réaction, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est puni? Parce que le gars, il est là, il parle pas, il crie pas, mais il a pas non plus l'air malheureux, il a l'air juste un petit peu à l'ouest quand même. Moi, je m'approche, j'essaie de l'appeler, de lui dire un mot, pas de réponse, et il y a quelqu'un dans la foule. La foule, elle est joyeuse autour, hein, ça chante, ça danse. Quelqu'un qui me dit, non, mais t'inquiète, il est en transe, il est dans une autre dimension spirituelle, il prouve sa foi à nos dieux hindous, il faut pas le déranger. Donc moi, je lui dis, mais enfin, ça a l'air atroce, et tout le monde défile comme ça, tranquille, autour du camion, en jouant de la musique. Tout le monde trouve ça normal, c'est quand même fou. Et la réponse, c'est, ben oui, parce que tout le monde participe, c'est une marque de dévotion. Tout le monde doit voir combien la foi de cet homme est immense, intense, et surtout combien sa foi permet d'accomplir quelque chose d'exceptionnel. Donc là, je vous avoue que c'est pour moi très, très mystérieux, parce que effectivement, l'homme suspendu n'a absolument pas l'air de souffrir. Et à ce moment-là, j'aurais bien aimé être avec un médecin pour qu'il me donne quelques clés pour comprendre. C'est à l'arrivée, quand on fait descendre cet homme, qu'on le détache, qu'on lui enlève lentement tous ses crochets, sa peau est percée de trous, hein, que c'est encore plus incroyable, parce qu'il n'y a aucune goutte de sang. Et ça, je vous assure que je l'ai vu de mes yeux, et c'est très, très, très troublant. On enlève un à un, comme ça, les crochets, il y en a beaucoup. Et c'est qu'à la toute fin, qu'il y a juste une toute petite goutte de sang qui sort sur le dernier crochet, et là, on lui applique de la poudre de bouse de vache pour que ça cicatrise. Là encore, j'essaie de lui parler un peu, mais il ne parle pas. Et une fois détaché, il s'en va. Bon, il ne marche pas comme si de rien n'était. On sent qu'il est encore un peu ailleurs. Mais bon, il part comme ça, sur ses deux jambes. Et c'est complètement fou.
Et si on partait sur Europe 1 ? 2 heures d'évasion avec Philippe Googler.
Nous sommes au Sri Lanka. Et le Sri Lanka, c'est vraiment ça. Au détour d'un village, d'une route comme ça, des choses absolument stupéfiantes, étonnantes, inexplicables pour nous.
Là, vous m'avez scotché. Hein.
Ah non, mais moi, je l'étais moi-même sur place, scotché, je ne vous cache pas. Et c'est comme ça, hein, le Sri Lanka. Olivier, vous êtes avec nous depuis le oui. Colombo. On peut assister à des choses, mais qu'on ne comprend pas finalement, qui nous dépassent.
Exactement, et puis il faut justement prendre le temps de découvrir ça. C'est pas la peine de courir, c'est un tout petit pays mais qu'on pourra jamais faire en 15 jours, et entièrement tout du moins, et donc il faut prendre le temps, s'arrêter au bord des routes, rencontrer les gens, et puis on tombe souvent sur ce genre de cérémonie à côté des temples ou sur la route, donc c'est magique. Ouais.
Alors vous avez pratiqué, si j'ose dire, une tradition locale très très importante, c'est l'astrologie.
Oui.
Et racontez-moi votre rendez-vous chez le notaire.
Oui. Alors on a il y a quelques années acheté un terrain ici dans le but de construire un écologe, et puis le jour de la signature, on est convoqué à 11h avec ma femme et puis on arrive à 11h, il se passe rien, et puis on a notre notaire très sympa devant nous qui nous regarde, qui nous fait des grands sourires, et puis on lui demande ce qui se passe, qu'on est venu pour signer. Et il nous dit d'attendre. Donc on attend, et puis on va attendre comme ça pendant 2 heures. On va attendre pendant 2 heures à se regarder, à se parler à peine. Et puis en fait, là, il va nous dire, ah, là, c'est le moment. Il devait être 13h07 exactement. C'était le moment de signer parce que c'était le bon moment dans la journée au niveau de l'astrologie pour signer l'acte notarial. Et ça nous assurait d'avoir une bonne vie avec ce terrain et qu'on ait des ondes positives en fait. Et ça, c'était extraordinaire et ça m'avait énormément marqué. Ouais.
Ouais, ça, c'est l'astrologie très importante.
À une minute près, c'était loupé.
C'est plus fort.
À une minute près, c'était loupé. Et c'est le cas aussi pour une pendaison de crémaillère, c'est le cas pour la naissance d'un enfant, pour le choix du nom, pour les élections présidentielles, c'est aussi le cas ici au Sri Lanka, pour les mariages, enfin, c'est extraordinaire. Donc les gens sont guidés, on va dire, de leur naissance à la mort, et ils savent où ils vont. Donc on a des gens extrêmement sereins, extrêmement cool,
parce que ils sont guidés.
Ils sont guidés par l'astrologie, c'est-à-dire qu'ils leur font, tellement confiance qu'ils savent à peu près ce qui va se passer à quel moment et donc ils sont relax.
Et surtout, ils vont accepter les épreuves. Au-delà de ils vont accepter s'il arrive quelque chose de pas bien, c'est pas grave parce qu'on a suivi le process et donc on va l'accepter. On est dans un pays où la résilience est importante. On a vécu des périodes extrêmement difficiles ces dernières années et on arrive toujours à rebondir. Et ça, c'est un truc extraordinaire ici.
Olivier Duflot, vous restez avec nous. On va continuer à plonger comme ça dans le Sri Lanka profond avec d'autres histoires extraordinaires et notamment une histoire de dents sacrées dans quelques instants avec Nathalie Hélal.
Europe 1, Philippe Googler.
Tous les jours, de nouvelles aventures autour de la planète. Nous sommes au Sri Lanka avec Nathalie Hélal, qui est notre grande voyageuse et surtout notre dénicheuse de belles infos. Nous sommes aussi en ligne avec Olivier Duflot, un Français installé au Sri Lanka, en direct depuis Colombo. Vous êtes toujours là, Olivier ?
Je suis là.
Très bien.
Toujours.
Nathalie, il faut qu'on parle dentition. On va faire un petit tour dentaire. Il faut que vous nous racontiez l'histoire incroyable de la dent sacrée de Candy.
Oui, alors autant vous dire que c'est probablement la seule fois dans l'histoire qu'on a bâti un temple pour une dent. Alors cette dent appartenait à Bouddha. Elle a été dérobée en 483 avant Jésus-Christ sur son bûcher funéraire en Inde. Je rappelle que Bouddha n'était pas un dieu, mais un simple mortel.
Quelle dent ? Une canine ? Une molaire ?
Il paraîtrait que c'était une canine. Je me demande pourquoi ce n'était pas une dent de sagesse, d'ailleurs, connaissant le Bouddha. Enfin,
pas mal, l'histoire.
Bon, en tout cas, c'est une princesse qu'il a rapportée au Sri Lanka au 4e siècle, en la cachant dans sa chevelure. Et puis, au fil d'événements historiques plus mouvementés les uns que les autres, la ratiche de Bouddha atterrit à Kandy, au pays de Kandy, la dernière capitale royale du pays, située dans les hauts plateaux du centre. Et puis en fait, il faut bien comprendre que garder cette relique, ça relève de la responsabilité du roi. Donc elle est progressivement devenue un symbole de la légitimité royale. Et c'est pour cette raison que les différents souverains ont fait construire des temples à proximité de leur lieu de résidence pour y abriter cette dent sacrée. On se demande d'ailleurs par quoi on aurait pu remplacer la dent si le Bouddha avait été édenté, si vous voyez ce que je veux dire.
Pas par des cheveux, en tout cas.
Non, on ne voit pas.
Nathalie, mais c'est pas possible.
Je m'arrête alors.
Comment on est sûr que c'est vraiment sa dent ?
Ben justement, vous allez voir, même quand on conserve une dent, il faut ruser. D'ailleurs, au XVIe siècle, les Portugais qui arrivent s'emparent de ce qu'ils pensent être la relique, ils l'emportent, ils la brûlent à Goa, parce que eux, ils sont dans le délire de l'Inquisition, donc c'est complètement impie, il faut cramer la ratiche. Eh ben pas du tout, en fait c'était une réplique. Et la vraie dent sacrée, elle est sauve. Elle est peut-être pas saine, mais en tout cas elle est sauve. D'ailleurs, selon la rumeur, la dent authentique, elle est cachée dans un endroit sûr, et puis celle qui est conservée dans le fameux temple de la dent, ben c'est une copie. Et d'ailleurs, elle est lavée tous les mercredis dans une eau parfumée, avec des fleurs odorantes.
Encore maintenant ?
Ben oui, encore maintenant, il y a un rituel comme ça, on lave la dent, on se demande bien pourquoi. En tout cas, on distribue, non pas la dent, bien évidemment, mais l'eau qui a servi à baigner cette dent aux adeptes qui sont dans le temple et qui sont en extase devant la relique. Donc on distribue cette eau et qui aurait des vertus guérisseuses. Ah, bon. Avez-vous testé ?
Non, mais votre histoire est incroyable. Et la dent avait son éléphant pour la promener.
Si on peut dire ça comme ça, parce que l'éléphant lui aussi, d'ailleurs il a eu droit à un musée, l'Elephant Museum à Kandy. Alors c'est un éléphant qui s'appelait Raja et il a transporté pendant un demi-siècle la fameuse dent qui devait pas peser bien lourd évidemment sur son dos lors des processions. Et quand il est mort de vieillesse en 1988, l'île entière a pris le deuil. Il a été évidemment empaillé, puis transporté dans ce musée créé en son honneur. Et d'ailleurs, Raja figure sur les timbres et les billets de 1000 roupies.
Ah, c'est dingue. Olivier, en plus, il y a des processions qui existent encore aujourd'hui, tous les étés, en direction de ce temple de la dent. Et c'est des processions magnifiques.
C'est sublime et c'est d'ailleurs bientôt et ça va réunir pendant une dizaine de jours des milliers de personnes, des milliers de locaux et même de touristes et puis surtout des centaines de danseurs et les plus beaux éléphants du pays qui vont venir parader et notamment le plus beau éléphant avec les plus belles défenses qui va avoir l'honneur de porter la dent du Bouddha à travers la ville. Il y a un lac à Kandy, un magnifique lac et on va faire le tour du lac. Avec des chants, des danses et les gens et les places sont extrêmement chères parce que les gens veulent être au plus près en fait de la cérémonie. Donc c'est sublime, c'est extrêmement coloré et c'est à la tombée de la nuit donc avec des lumières de partout, c'est super.
Est-ce qu'il y a toujours des éléphants carapaçonnés d'or?
Oui, beaucoup, beaucoup. Et puis on leur met des petites lumières en fait dessus. Ouais. Ils sont chichement habillés, ils sont magnifiques.
Ouais, j'ai cru que vous alliez rajouter quelque chose, excusez-moi.
Moi aussi, mais non.
Tellement bien, etc. Juste une petite question. Il y a souvent des questions là-dessus. Ils ne sont pas trop maltraités, les éléphants, parce qu'il y a des gros débats là-dessus.
C'est un long débat, c'est compliqué, mais il faut savoir qu'au Sri Lanka, comme vous l'avez bien dit, l'éléphant, c'est un animal sacré. Et on le traite plutôt très bien. Alors effectivement, les éléphants qui paradent lors de ces grandes processions, il y en a aussi à Colombo au mois de janvier, où là on va balader les cheveux de Bouddha. Ouais. Effectivement, c'est pas les plus à plaindre, je dirais, parce qu'ils sont quand même bien traités. Après, effectivement, un éléphant, c'est quand même pas voué à porter effectivement tous ces vêtements, toutes ces lumières qui peuvent peser aussi très lourd sur eux. Donc c'est un très vieux débat, mais comme avec la tauromachie chez nous, c'est un peu pareil. Ouais.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Olivier de nous avoir aussi bien raconté le Sri Lanka.
Merci à vous.
À une prochaine, j'espère, pour parler encore de ce merveilleux pays. Au revoir Olivier.
À très vite. Au revoir.
À suivre sur Europe 1 la cuisine du Sri Lanka avec Olivier Pouls et toute la bande voyageurs, toute la bande de joyeux voyageurs. Et là, je peux vous dire que il va falloir y aller avec le palais et la langue armée.
Il va falloir s'accrocher.
Parce que c'est quand même une des cuisines les plus épicées du monde. À tout de suite.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Tout l'été sur Europe 1, entre 16h et 18h, je vous emmène en voyage dans les endroits les plus étonnants, les plus savoureux de la planète. Nous sommes au Sri Lanka et avec Olivier Pouls, nous allons parler des saveurs extrêmes. Il
faut vous n'allez pas être déçu.
Ah mais c'est terrible, moi j'ai des souvenirs. Je crois que c'est le pays où parfois je n'arrive pas à finir le plat. C'est pas possible, c'est trop épicé. C'est dur.
Alors c'est vrai que l'épice, et notamment le piment surtout, oui, fait partie d'un incontournable chez eux. Alors vous savez par exemple que si ça vous arrive, hein, si vous mangez trop épicé comme ça, ne commettez surtout jamais l'erreur de boire de l'eau.
Surtout pas, ça empire.
Ah, ça empire, c'est terrible. La seule chose, le seul liquide qui peut un peu vous calmer, c'est le lait.
Ah oui ?
Oui, boire du lait, ça adoucit.
Du lait de vache ?
Du lait de vache ou du lait de coco, par exemple. Ah ouais. Oui, ça adoucit un tout petit peu et ça enrobe votre palais mais et ça rend les choses un peu plus supportables.
C'est horrible. J'ai des souvenirs horribles de bouchées brûlantes et après, vous ne pouvez plus manger quoi que ce soit parce que vous avez la bouche en feu. Et je peux vous dire aussi que quand vous avez mangé très, très épicé, ça brûle la bouche et par où, là, ça ressort le lendemain.
Mais c'était donc une question de culture et d'habitude puisque ces peuples mangent épicé depuis toujours. Même les enfants, lorsqu'ils sont dans le ventre de leur mère, goûte à l'épice au travers de
placenta.
Du placenta. Et ensuite, le lait qu'ils vont boire, le lait maternel, est épicé. Enfin bref.
Mais c'est pas dangereux pour le corps, des doses pareilles ?
Pas du tout. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, d'ailleurs, l'épice ne brûle pas. Il n'y a aucun symptôme qui soit visible. Si vous mangez effectivement ce morceau de piment, que vous recrachez tout, je peux vous garantir que votre palais n'a rien. Et quelques heures plus tard, il aura retrouvé toutes ses facultés. Alors, évidemment, on va éviter d'en arriver là quand même parce qu'on ne va pas se gâcher le plaisir. Donc le conseil quand on va au Sri Lanka, c'est de demander de ne manger pas épicé. Et rien que quand on dit pas épicé, pour eux, ça veut dire encore épicé pour nous.
C'est déjà fort.
C'est dire qu'il y a un rapport à l'épice qui est incroyable. Alors rassurez-vous, vous allez quand même pouvoir manger des choses. Alors l'incontournable, c'est le rice and curry. Et c'est un peu leur petite tapas là-bas. C'est un truc très sympa. C'est du riz et qu'on va accompagner de plein de petits plats qui sont cuisinés, alors souvent avec du curry évidemment. Alors vous allez avoir des lentilles, des haricots, des patates douces. Et l'idée là-bas, c'est que souvent on mange avec les mains aussi.
Ouais.
On mange avec les doigts, on mange avec les quatre doigts de la main droite. On ne mange pas avec la main gauche, vous savez pourquoi ? Parce que la main gauche est considérée comme impure, c'est celle que vous utilisez pour tenir quand vous allez aux toilettes. Et donc, on ne mange pas avec la main gauche. On mange avec la main droite. Alors, on fait des petites boulettes comme ça, avec le kiki. Vous avez raison.
Le kiki. Mais ça, c'est parce que c'est uniquement pour ceux qui ont le kiki sale.
Voilà, pour les autres, ils peuvent essayer. Mais en tout cas, ce n'est pas très bien vu. Donc, on mange, les usages veulent qu'on mange avec la main droite. On fait des petites boulettes de riz qu'on va tremper comme ça. Ça, c'est l'une des manières de manger. Ce que vous allez manger aussi, c'est le hoppers. Les hoppers, ce sont des petites crêpes. Alors ça, ce n'est pas très épicé. C'est ce qui va être mis dedans, qui peut l'être un peu plus. Mais les hoppers sont des petites crêpes à la farine de riz qu'on va garnir. Et ça, on en trouve partout. Alors, on farcit ça avec des œufs, par exemple. On farcit ça avec des légumes. On mange, en fait, beaucoup. C'est très végétarien comme pays,
c'est vrai,
et comme
c'est
cuisine.
Vrai. Un peu comme l'Inde, d'ailleurs.
Voilà. Il y a énormément de légumes, il y a énormément de riz, il y a énormément de farine, etc. On mange pas tellement de viande. Ça nous change de l'Argentine où on était hier. On va changer un tout petit peu de régime. Et donc... il y a un petit peu de poisson, et notamment le crabe dans le nord du pays, à Jaffna, où l'une des grandes spécialités, c'est le curry de crabe avec du lait de coco. Ça, c'est quand c'est pas trop épicé, c'est absolument, absolument délicieux.
Avec le nom, ça fait saliver, le curry de crabe.
Un beau petit curry de crabe.
Les petits morceaux de crabe.
C'est des petits crabes, non ?
Oui, c'est des petits crabes, exactement. Et ça, c'est vraiment délicieux. Et puis, on ne peut pas parler du Sri Lanka sans parler de la boisson nationale qui est le thé, bien évidemment.
Ah, oui.
C'est l'île au thé. Le thé, c'est comme le vin. Il y a une notion de terroir, il y a une notion de savoir-faire, de goût. On ne peut pas dire le thé du Sri Lanka. Les thés du Sri Lanka qui ont des goûts différents en fonction des endroits dans lesquels ils poussent.
Qu'on nomme souvent le thé de Ceylan, puisque c'est l'ancien nom du Sri Lanka, mais c'est la même chose.
Qui a le meilleur et le pire.
Voilà, qui s'appelle Sri Lanka depuis 1972, qui s'appelait Ceylan auparavant, et qui a gardé cette appellation pour le thé. Vous avez raison, il y a du thé de Ceylan qui n'a aucun intérêt, qui est industrialisé et probablement traité comme il ne devrait pas l'être. Mais vous avez aussi des thés extraordinaires. Les thés les plus raffinés, les plus rares, peuvent coûter une fortune. Et il faut savoir que l'industrie, ou la culture du thé au Sri Lanka, n'est pas si ancienne que ça. Ça remonte à 1869. Oui, parce qu'avant, ce n'était pas du thé qu'on y trouvait, mais du café. Ouais. Et les caféiers ont péri suite à l'introduction ou l'arrivée d'une maladie qui a fait chuter totalement la production de café, qui l'a anéanti. Et on n'a pas replanté des caféiers, mais on a replanté des théiers. C'est ainsi que l'île est devenue aussi célèbre pour ses grands thés.
Absolument. Merci beaucoup, Olivier. Dans un tout petit instant, les bons plans de Jean-Bernard Carrier pour profiter à fond du Sri Lanka, parce qu'il y a tellement de choses à faire et à voir, il faut s'organiser un petit peu. À tout de suite sur Europe 1.
16h-18h, et si on partait ? Philippe Googler.
Nous sommes au Sri Lanka. Alors maintenant qu'on a tous envie de partir, Jean-Bernard, il va falloir assurer, nous donner les bons tuyaux, les bonnes adresses. Comment aller au Sri Lanka ?
Très facile d'y aller, Philippe. C'est un pays qui est facilement accessible. Il y a des vols directs ou via le Moyen-Orient pour s'y rendre. Comptez 10-12 heures d'avion.
Quand ça reprendra vraiment, parce que pour l'instant, c'est un peu difficile.
Alors, une petite précision, on va y venir, c'est qu'en fait, on circule très facilement au Sri Lanka. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, vous avez parlé du train, c'est déjà une option, mais il y a également d'autres moyens de circulation. Il y a les transports en commun, et puis il y a les tuk-tuk.
Voilà. Ah, les fameux tuk-tuk.
Les fameux tuk-tuk.
On circule facilement, mais c'est quand même long. C'est-à-dire qu'on peut aller vraiment où on veut, c'est vrai, mais les montagnes, c'est très sinueux.
Alors,
il y a des bouchons.
Il y a des bouchons, mais je pense que dès qu'on sort des grandes villes, l'île ne fait que 300 km du nord au sud. On l'a vu, c'est facile de se déplacer et il y a plein d'endroits en Corse très sauvages. Il faut le dire, le Sri Lanka, ce n'est pas non plus bondé, ce n'est pas non plus des villes à perte de vue. Il y a beaucoup d'espaces nature et beaucoup d'endroits où on est tranquille. On peut se retrouver seul au monde au Sri Lanka, c'est ce qui fait aussi le charme de ce pays.
Et les massages, c'est le pays des massages.
J'allais dire, après toute cette cuisine épicée, après ces processions avec des gens tenus, après ces gens tenus par des crochets, voilà. Ouais. J'ai pensé qu'il fallait quelque chose pour se détendre, pour se relaxer, pour vivre le pays de manière plus agréable et détendue, n'est-ce
pas,
Nathalie ?
Suivez-moi,
je vous emmène dans un endroit où on fait du massage ayurvédique, figurez-vous, parce que ça c'est vraiment dommage de passer à côté de cette expérience qui est typique lorsqu'on voyage au Sri Lanka. Le Sri Lanka, c'est plus qu'un moment de détente. Ce massage ayurvédique, c'est une tradition ancestrale. Il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Ça a pour but d'entretenir et d'harmoniser toutes ces énergies qui sont parfois un peu perturbées par cette cuisine fortement épicée. C'est un moyen de retrouver un équilibre intérieur. Ça fait vraiment partie du mode de vie des Sri Lankais, j'insiste beaucoup là-dessus. Il y a même une académie de l'Ayurveda, du massage ayurvédique. C'est une activité qui est encadrée. Il y a un ministère de la médecine indigène depuis 1980 et la médecine ayurvédique est vraiment considérée comme sacrée dans ce pays. Donc c'est pris très au sérieux, Philippe.
Mais quelle est la différence avec un massage classique?
Ça se fait à base, c'est un massage à base d'huile essentielle de plantes. Alors bien sûr, il faut trouver le bon centre qui vous correspond. En fonction de là où vous voulez vous faire masser, de la pathologie que vous avez, il faut trouver le bon masseur ou la bonne masseuse. Je précise quand même pour les femmes qu'il faut se faire masser par des femmes. Il peut y avoir quelques petites déviances aussi, donc il faut trouver les bons centres. Oui, il faut trouver les bons centres de massage. Ce n'est pas du massage thaïlandais, c'est vraiment un massage ayurvédique. Je précise aussi qu'il y a une mode qui se développe de plus en plus chez les touristes qui vont au Sri Lanka. Ce n'est pas simplement de se faire un massage ayurvédique, c'est aussi d'apprendre la technique du massage ayurvédique pour ensuite la proposer ici en France. Il y a des ateliers, des séminaires, des stages de massage ayurvédique.
Vous en ferez un après l'émission.
Oui, on va essayer.
Très bien. Est-ce que côté souvenir, vous nous avez trouvé des choses un peu originales?
Ouais, j'ai trouvé un truc pas mal. Est-ce que vous aimez bien les objets en papier, Nathalie? Les petites sculptures en papier,
les carnets. Non, les origamis, je trouve ça sympa.
Ah ben, j'ai quelque chose de pas mal, sauf que c'est du papier qui est fait à base d'excréments d'éléphants.
Ah, c'est moins sympa pour être gardé. Hein.
Donc, il n'y a pas plus écolo que ça. C'est du recyclage intégral. C'est une entreprise locale qui s'appelle Maximus, qui est assez connue localement. Elle emploie pas mal de monde. En fait, elle récolte et elle traite les déjections d'éléphants. Parce qu'un éléphant,
c'est-à-dire qu'il y a des gens qui courent après les éléphants pour ramasser les crottes.
Non, alors c'est plus subtil que ça, Philippe. C'est qu'en fait, ces éléphants mangent 250 kilos de verdure par jour et il y a à peu près 50 kilos de fumier qu'on peut récupérer. Alors, avec tout ça, le processus est très simple parce que le pachyderme, lui, il ne digère pas tout ça. Il ne digère pas toute la cellulose qui est contenue dans les végétaux. Cette cellulose, c'est une matière fibreuse. On la récupère, on la lave à grandes eaux, on la boue pendant 4 heures. C'est ensuite séché et traité comme une pâte à bois. Et à l'arrivée, on obtient du papier naturel sans odeur. Je précise bien, Olivier, sans odeur parce que je vois que vous faites la moue, vous n'êtes pas convaincu. Sans odeur et sans bactéries.
C'est vrai, il fait la moue. Ouais.
Non, mais ce qui serait extraordinaire, c'est que ça serve à faire du papier toilette. Là, on bouclerait le truc, quoi. Ce serait quand même génial.
Je n'avais pas pensé à ça, mais écoutez, au moins, il y a une vertu, c'est que c'est du papier qui est fait sans couper des arbres, donc c'est très écolo. Et puis j'ajoute aussi que ces éléphants qui sont utilisés pour faire ce papier-là, ce recyclage, c'est des éléphants qui étaient auparavant maltraités. C'est des éléphants qui étaient dans des zoos qui servaient à transporter les touristes. En fait, ils ont été récupérés par ce centre Maximus pour ensuite leur faire produire ce ferment naturel qui sert ensuite à des objets que les touristes s'arrachent, figurez-vous.
C'est super, je t'ai ramené de la crotte d'éléphant, ça fait plaisir.
C'est un très beau papier, ensuite c'est décoré. Non, franchement, c'est un beau souvenir à rapporter. Ouais.
Alors, vous aussi, vous êtes un fan du tuk-tuk?
Ah, j'ai adoré le tuk-tuk. Pour moi, c'est le mode de déplacement le plus adapté. Non seulement c'est typiquement Sri Lankais, mais des agences sur place comme celle d'Olivier. Mais Olivier a parlé du tuk-tuk dans la ville de Colombo. Mmh. Moi, je préconise le tuk-tuk dans tout le pays. Vous pouvez faire le tour de l'île.
Mais vous allez mettre 8 heures pour faire 50 km.
Vous passez 3 semaines. Il y a des agences qui sont spécialisées dans des road trips.
Moi, écoutez, franchement, 3 semaines de tuk-tuk, ça doit faire mal aux fesses.
Tout le monde ne bosse pas Lonely Planet.
Mais c'est assez confortable parce que les tuk-tuk qui sont loués par ces agences telles que celles qu'Olivier les propose, en fait, ils ont été un petit peu réaménagés pour les touristes. C'est assez confortable. Il y en a même qui sont aménagés comme des vannes. On peut dormir derrière. Moi, je verrais bien Olivier et Nathalie faire un road trip autour de l'île, là, franchement.
Voyons.
Hein, dans un tuk-tuk.
Dans un tuk-tuk. Moi, je les verrais bien tous les deux, là.
Avec du PQ d'éléphant.
C'est comme des camping-cars. Alors, il y a aussi l'avantage aussi du tuk-tuk, et j'aime bien aussi ce mode de déplacement, c'est qu'en fait, les tuk-tuk sont loués à des familles. Et donc, lorsque l'agence vous loue le tuk-tuk, il y a une partie de ce que vous payez qui est reversée au propriétaire de tuk-tuk. Il y a un petit côté éco-responsable et qui est quand même assez important à souligner.
Très vite, Jean-Bernard, le côté plongé, on n'en a pas du tout parlé.
Ah oui, il y a aussi les richesses marines. Il faut aller à Nilavelli, sur la côte est. Il y a des plages de sable blanc qui sont magnifiques. Et en plus, il y a des jolis centres de plongée qui vous proposent des spots où on trouve des tortues, des dauphins, des murènes et même quelques plongées sur épave. Donc c'est vraiment pas mal.
Ouais. C'est vraiment un pays aux mille facettes.
On fait tout au Sri Lanka.
Et dans le sud, il y a
une petite surface.
Dans le sud, il y a aussi les pêcheurs sous échasse à voir.
C'est génial ça. Alors ça, c'est génial. C'est toute la côte sud. Alors ils sont en fait, ces pêcheurs sont perchés. C'est des pêcheurs perchés sur des échasses, des grands piquets plantés dans la mer. Et ils attendent en fait que les courants leur amènent les poissons. Ils ont une canne à pêche. Ils attendent simplement. Ils se positionnent là où les courants amènent les poissons. Ouais. et pouvez les voir. Il faut y aller le matin ou en fin d'après-midi, parce qu'en journée, il fait trop chaud.
Ouais, ils sont comme sur une grande échasse.
Ah, hein, c'est une image mythique.
En dessous d'eux, il y a des poissons qui passent.
On rejoint les flamants roses tout à l'heure.
Un peu. Merci beaucoup, les amis, pour ce beau voyage. Encore une fois, comme chaque jour sur Europe 1, nous voyageons très, très loin. Chaque jour, deux belles destinations. Je vous donne rendez-vous demain.